Radio Okapi.
Abattu jeudi dans une ferme au village Menko. C'est au cours d'une nouvelle incursion des miliciens Mobondo dans le territoire de Kwamout, province de Maïndombe. Ces hommes armés contrôlent plusieurs villages de ce coin et continuent à saboter les biens de la population en fuite. Toujours pas d'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, alors qu'il ne reste qu'une semaine pour la tenue des élections des sénateurs. Le manque de moyens et les tractations politiques seraient à la base de ce blocage. Patrick Nkongo est l'invité de ce journal. Il est le directeur général du FPMSA, le Fonds pour l'inclusion financière. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Nouvelle incursion des miliciens Mobondo dans le territoire de Kwamout, province de Maïndombe. Une dizaine de bœufs ont été abattus jeudi dans une ferme au village Menko. Ces assaillants contrôlent plusieurs villages de ce coin et continuent à saboter les biens de la population en fuite. D'après le chef coutumier du village Kimomo, Stani Libye, qui livre l'information, la persistance de ces incursions constitue un sabotage de l'acte d'engagement signé devant le chef de l'État la semaine dernière. Stani Libye est au micro de Irène Bomaluzolo.
À 10h, un groupe de Mobondo a surgi dans l'espace de Kimomo Mbumsie, dans le village Menko. Ils ont tué 11 bœufs qu'ils ont menés dans leur dernier retranchement. Ce sont le groupe de miliciens qui opéraient sur RN17 lors des derniers affrontements qui ont eu lieu au niveau de Mapanda et au passage de garde républicain. Ils se sont retranchés dans l'espace allant de Fadiaka, Boku, Kimomo, Mbunsie et la rivière Kwang Falio. C'est dans cet espace-là qu'ils sont en train d'opérer, mais ils étaient très nombreux au point que la population qui partait au champ n'a pas pu, tellement qu'ils étaient armés jusqu'aux dents. Et nous disons par rapport à l'âge de la guerre qu'on a enterré, que ce n'est qu'une façon de défier le gouvernement et que des mesures régaliennes doivent être prises pour mettre fin à cela. Cette négociation, à mon humble avis, ne va que prendre un temps et on dirait même comme si le gouvernement est resté impuissant devant les assaillants qui ne s'inquiètent même pas par rapport à tout ce qui a été dit la fois passée à l'Union africaine.
À Bounia en Ituri, une bagarre rangée hier vendredi au quartier Kindia entre les membres d'un gang dénommé Oulor et de jeunes associés au taximen qui se disent chaque fois victimes des violences de ces bandits. Ces derniers sont cités dans plusieurs cas de vol à main armée, viol, agression physique et meurtre. Les activités économiques ont été paralysées suite à ces échauffourées qui ont fait plusieurs dégâts matériels, indique la police urbaine. Isaac Rémo.
Ce groupe de gangs est composé essentiellement des jeunes dont l'âge varie entre 8 et 25 ans. Selon certaines victimes, ces jeunes circulent pendant la journée et la nuit dans les quartiers pour cambrioler les maisons et boutiques, dépouiller les passants de leurs biens, téléphones et argent. Ils érigent même des barrières pour rançonner la population aux vies et aussi des autorités et services de sécurité, ce qui crée une psychose et réduit les activités économiques dans les quartiers. Un habitant témoigne.
T'as des ménages, t'as des avenirs, ils sont en train de passer gauche-droite, c'est piller les biens des gens, de faire même mal aux gens. Ceci fait partie des faiblesses de l'autorité de l'État. On est vraiment délaissé par l'État.
Face au reggae de violence de ces groupes de gangs, des jeunes du quartier Kindia et les taximens en colère se sont mobilisés hier pour les traquer. 5 parmi eux ont été arrêtés, des maisons qui leur servent de quartier général et tous les effets incendiés. La police de la ville de Bounia a pris certaines dispositions face à ces phénomènes, comme l'a dit son commandant, le colonel Abeli Mwangu.
Nous recommandons à la population de dénoncer partout où vous les verrez ces délinquants. Un cas-là surnommé Oulor, et en cas d'arrestation, d'alerter les services de sécurité. La sécurité collective est l'affaire de tous.
Les commerces et la circulation des engins qui étaient suspendus ont repris depuis ce samedi matin dans ces quartiers. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
L'Assemblée provinciale du Sud-Kivu éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement. Le bureau définitif de cet organe délibérant n'est toujours pas installé à une semaine de la tenue des élections des sénateurs. Le manque de moyens et les tractations politiques seraient à la base de ce blocage. Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Certains députés provinciaux du Sud-Kivu expriment déjà leurs inquiétudes quant au bon fonctionnement de leur institution en province. Le règlement intérieur qui venait d'être adopté il y a quelques jours attend encore l'aval de la Cour constitutionnelle à Kinshasa pour son entrée en vigueur. Conséquence, il est difficile de convoquer les élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée. Le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu s'est rebuté aux problèmes de moyens financiers et logistiques. Mais aussi, le blocage s'est réduit aux tractations de grandes formations politiques majoritaires à l'Assemblée sur le partage des postes du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Alors que le calendrier de la CENI prévoit le début de la campagne électorale des candidats sénateurs au 18 avril 2024 devant les députés provinciaux pour les élections prévues le lundi 22 avril. Certains députés se demandent déjà si ce calendrier sera respecté dans l'espace de quelques jours qui restent. Pour 4 sièges, plus de 65 candidats sénateurs du Sud Kivu s'annoncent déjà dans la ville de Bukavu pour affronter leurs électeurs. Emmanuel Elamé Joakabedi, Bukavu Radio Kapi.
Quant aux députés provinciaux du Haut-Katanga, ils ont, eux, dans leur majorité, déposé hier une pétition contre les membres du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale. Ils leur reprochent notamment l'incompétence et le manque de considération. C'est à la suite de la non-tenue de l'élection des membres du bureau définitif, prévue hier, sans qu'aucune explication ne leur soit donnée. Jean Gandou.
La déception et la colère étaient perceptibles sur le visage des députés provinciaux après le report inédit et sans explication de la plénière de ce vendredi. Pourtant, elle était consacrée notamment à l'élection des membres du bureau définitif. Devant la presse, le président du bureau d'âge en a donné la raison, Ladislas Longangé.
Nous avons eu des réclamations. Un candidat, il est fonctionnaire au niveau de la présidence et député à la fois, ce sont des choses qui ne se font pas. J'ai dit, nous constituons d'abord une commission qui traite sur ce dossier. S'il faut qu'on voit la cour d'appel où nous trouvons une solution au niveau interne. À ce moment-là, les élections peuvent se faire.
Michel Kabwe, le candidat incriminé, a rejeté toutes ces allégations. D'après lui, la preuve de sa démission a été bel et bien introduite dans son dossier à l'Assemblée provinciale. C'est donc un faux fuyant qu'avance le président du bureau d'âge qui est aussi son challenger, a-t-il indiqué. À cette préoccupation, les députés frondeurs par l'entremise de leur collègue Thomas Lupata ont estimé que
il n'appartient pas au bureau d'âge de pouvoir juger parce que ce sont des questions qui devaient se traiter en plénière. Tous les membres de ce bureau d'âge sont candidats chacun selon les postes qu'ils cherchent à briguer. Ça a été d'une manière intentionnelle fait pour que la machine soit bloquée.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans le territoire de Beni au Nord Kivu, le quartier Mwangaza de la cité frontalière de Kasindi, à 85 km au nord-est de la ville de Beni, n'est toujours pas desservi en eau potable depuis 3 mois maintenant. Pour la société civile du groupement de Basongora, cette situation risque d'affecter aussi l'hôpital général de référence de Kasindi, qui se situe dans ce même quartier, le quartier où la population est obligée de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau potable. Elle demande au gouvernement provincial d'appuyer l'association des consommateurs en eau potable de Kasindi à Koep, ainsi que la régie des eaux, afin de trouver une solution pérenne à ce problème. Denis Serge Kalenga, coordonnateur de la société civile du groupement de Basongora, est joint au téléphone par Marc Marofimbo.
Ce problème s'était dit à la période où il n'y avait pas vraiment de pluie, alors presque les rivières étaient sèches, alors il n'y avait pas moyen. Pour le moment, il y a encore un petit souci. La Koep n'a pas encore tous les équipements pour arriver à résoudre ce problème. On avait essayé quand même de poser la situation auprès de la régie des eaux qui travaille en étroite collaboration avec la COEP, qui nous avait promis une suite. On attend encore. Mais nous pensons que la solution sera bientôt trouvée, parce que les gens se concentraient plus à chercher la solution au problème Kongo-Asika. On oubliait déjà que le quartier Mandaz avait un problème. Mais déjà, l'équipe qui était sur place, on avait essayé de poser le problème. On attend le gouvernement provincial. Dit-on qu'il y avait un problème de financement, il n'y avait pas de moyens. Alors que lorsque ce quartier a un problème d'eau, l'hôpital automatiquement sera aussi infecté.
Restons au Nord Kivu pour parler de la clôture jeudi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans plusieurs zones de santé de la région de Beni, Butembo et Lubero. Malgré quelques cas de résistance de certains parents ainsi que le problème d'insécurité, 100% de cibles ont été atteintes, affirme Dr Michel Tosalisana, médecin chef de zone de santé de Beni. Sadiki Aboubakar pour plus de détails.
Dans la zone de santé de Beni, la campagne de vaccination contre la poliomyélite s'est clôturée mercredi. Le quatrième jour, jeudi, était considéré comme la journée de récupération pour les enfants qui n'avaient pas encore reçu leur dose. Le docteur Michel Tosalisana, médecin chef des zones de santé, affirme que la cible a été atteinte à 100%. L'objectif était de vacciner au moins 116 000 enfants de 0 à 59 mois. Cependant, ajoute-t-il, quelques réticences rencontrées dans les aires de santé de Boutili ont été vaincues après échange avec la communauté. Par ailleurs, dans la zone de santé de Bangourejipa, dans le territoire de Lubero, la campagne de vaccination va se poursuivre jusqu'à dimanche. Le médecin-chef des zones de santé justifie cette prolongation par des difficultés des agents vaccinateurs d'accéder à certains villages enclavés. Le docteur Marcel Kambumbu affirme toutefois que, jusque-là, les vaccinateurs ont atteint 105% du nombre des enfants attendus. Dans le village de Gombo, où un chef Maïmaï avait chassé les agents vaccinateurs, les enfants ont été finalement vaccinés après un plaidoyer avec les leaders communautaires. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Rendons-nous dans le Maniema. La société civile environnementale se pose la question de savoir à qui profite l'abattage illicite d'arbres ainsi que la destruction des forêts primaires. Dans une interview à la presse hier, le coordinateur de cette structure a parlé du territoire de Kabambare comme un espace d'exploitation illicite de bois. Jean-Claude Boucheri l'a dit à Florence Kizalunga.
La société civile environnementale s'inquiète de la destruction des forêts primaires, ce qui n'aidera pas la RDC à atteindre les objectifs 30-30 auxquels le pays a souscrit pour conserver 30% de son territoire et répondre au développement des communautés autochtones. Ces forêts primaires, qui sont des habitats privilégiés des grands singes, éléphants et autres espèces rares, subissent une destruction sans mesure en territoire de Kabambare. Depuis un certain temps, le territoire de Kabambare est victime d'une exploitation illicite du bois d'œuvre, bois rouge dont l'espèce Mukula, et d'une destruction en masse des forêts primaires longtemps préservées par les communautés autochtones qui, aujourd'hui, est la cible des commerçants venant de partout et qui serait en collaboration avec les pays voisins qui font la guerre à l'RDC. Et pis encore, cette exploitation s'est faite avec la complicité de certaines autorités locales et provinciales. Pour consolider les acquis de la conservation de la biodiversité à Kabambare, nous recommandons ce qui suit. Primo, interdiction expresse à la population de pratiquer l'abattage illicite des arbres. Secondo, formation d'une équipe mixte de sensibilisation. Tertio, dénonciation en cas de flagrance, tout cas d'abattage d'arbres illicites par les exploitants forestiers. Et quarto, interdiction aux exploitants d'exporter les planches déjà sciées par les voies illégales.
Retour au sud Kivu. La MONUSCO a remis jeudi deux véhicules de terrain au ministre provincial des infrastructures, travaux publics et réaménagement ITPR et au commissariat de la police nationale congolaise du sud Kivu. Il s'agit de deux jeeps de marque Nissan Patrol destinés aux opérations liées à la protection des civils à Kamanyola et ses environs. Le chef du sous-bureau de la MONUSCO, Uvira Kassimi Bamba, a remis les clés de ces véhicules aux représentants du gouverneur de province et ministre provincial des ITPR, Gaston Chisawa Numbe. Fiston Goma.
L'unité spéciale de la police nationale congolaise déployée à Kamanyola était confrontée au sérieux problème de mobilité dans la zone comprise entre les escarpements de Ngomo, la frontière le long de la rivière Ruzizi avec le Rwanda et le Burundi, ainsi que vers Luvungi et Bwegera dans la plaine de la Ruzizi. Son commandant, le lieutenant-colonel Baku Kangolikwenda Donna, exprime sa satisfaction et rassure la population.
Sans moyens, vraiment l'armée est foutue. Et sans la mobilité, vraiment, c'est rien alors. Ce véhicule vaut pour nous quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'avec le véhicule, nous aurons comment faire notre mission avec succès. Il y a deux patrouilles pédestres. On avait encore un autre véhicule qui nous servait. Maintenant que nous avons des, nous allons faire plus que ce qu'on faisait auparavant. Et nous mettons en garde ceux qui ne veulent pas se conformer, ceux qui ne voudront pas vraiment se mettre sur le rail. Alors ils vont croiser la police. Et surtout que nous avons tous les moyens, nous allons mettre hors état de nuire toute force qui cherche vraiment à insécuriser la population.
De son côté, les représentants du gouverneur des provinces et ministres provinciaux des ITPR, Sisawa Numbe, salue la bonne évolution du processus de désengagement de la MONUSCO qui s'est fait en collaboration avec l'État congolais, signalant que cette donation intervient après le retrait du contingent pakistanais et la fermeture de la base de la MONUSCO à Kamanyola au mois de février dernier. D'Ouvira Fistongo Mayaba, la Radio Okapi.
Actualité internationale. Une attaque au couteau a fait 6 morts et plusieurs blessés samedi dans un centre commercial bondé de Sydney en Australie, a déclaré à la presse un responsable de la police qui n'a pas écarté la piste terroriste. Cette agression a fait également plusieurs blessés, dont 8, y compris un enfant, ont été transportés à l'hôpital. Par la suite, un homme a été abattu par la police. Plusieurs sources parlent de l'agresseur présumé. Ce type d'attaque en Australie est rare. En novembre 2018, un individu armé d'un couteau avait tué une personne et en avait blessé deux autres dans une rue de Melbourne avant d'être abattu par la police. Le crime avait été revendiqué par le groupe État islamique.
L'invité.
Le Fonds pour l'inclusion financière FPMSA renforce sa capacité à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises. Elle a obtenu du gouvernement allemand à travers la KfW, Banque allemande de développement, une ligne de refinancement de 20 millions d'euros. Le directeur général du FPM est l'invité de ce journal pour en parler. Patrick Nkongo répond aux questions de Daniel Ntambizoni.
Monsieur le DG, bonjour.
Bonjour.
Le FPMSA vient de recevoir de la KfW une ligne de refinancement de 20 millions d'euros. Comment le FPMSA compte-t-il utiliser ces fonds pour dire à qui et à quoi est destiné ce financement?
C'est suite à la crise sanitaire de COVID-19 que le gouvernement allemand, à travers la BMZ, a accordé une subvention au gouvernement congolais à travers le ministère des Finances pour soutenir les MPME impactées par la crise COVID. Et le FPMSA, étant une société financière agréée par la Banque centrale du Congo, dont la KfW, qui est la banque de développement allemande, est actionnaire, a sélectionné le FPM pour porter ce projet. Donc, les bénéficiaires finaux sont des MPME, des micro, petites et moyennes entreprises, qui ont été touchées par la crise COVID. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2024, la crise COVID est passée, et là, on est en train de voir comment réorienter ces fonds à travers les mécanismes d'impact pour plus d'inclusion financière.
Vous travaillez souvent avec les institutions financières pour atteindre ces micro, petites et moyennes entreprises. Alors, pour ce cas, quels seraient les critères de sélection de ces institutions financières?
Pour nous, en tant que FPM, nous passons à travers, nous utilisons les intermédiaires financiers pour toucher les bénéficiaires finaux, qui sont les MPME. Donc, on travaille avec les banques, les institutions de microfinance et les coopératives. Les critères restent standards, alignés, indépendamment des segments. Premièrement, d'abord, il faut que l'institution financière soit agréée par la Banque centrale du Congo. Et deuxième critère, l'institution financière doit avoir un système qui nous permet de générer des rapports pour le suivi sur l'utilisation des fonds mis à disposition. Et aussi, l'institution financière doit avoir un auditeur externe agréé par la Banque centrale du Congo. Ce sont des conditions de base. Effectivement, il y a aussi des conditions, des critères opérationnels qui accompagnent un peu l'accès aux institutions financières sur cette ligne de financement.
Les termes de référence de ce projet, Monsieur le DG, renseignent que le FPMSA va travailler aussi avec la cellule de financement des États fragiles, la CFF. Comment cela va se passer concrètement sur le terrain?
La CFF, c'est vraiment la branche technique du ministère des Finances qui, avec le FPM, signe toujours un contrat de transmission. Donc, le contrat de transmission, c'est un contrat qui matérialise la cession de ces dons au profit du FPMSA. Donc c'est vraiment un partenaire clé pour le FPM qui nous accompagne à chaque fois que nous sommes dans le processus de levée des fonds au niveau de la KfW.
À quel moment, Monsieur le DG, le FPMSA va mettre ce financement à la disposition des bénéficiaires finaux?
Oui, donc c'est une ligne de financement de 20 millions d'euros qui a trois dimensions en tout cas. Là, je parle un peu des caractéristiques. Il y a d'abord la ligne de financement de 15 millions d'euros destinée aux institutions financières. Et puis, il y a un mécanisme de partage des risques rattaché à cette ligne de financement qui est de 4 millions d'euros, c'est-à-dire couvrir des crédits accordés aux MPME jusqu'à 80% des taux de couverture, ce qui est très important. Et puis, il y a une ligne de frais de gestion de 1 million d'euros qui est mis à la disposition du FPM. Et ces trois composantes sont encadrées à travers un contrat et il y a des indicateurs de performance, bien entendu. Et les institutions financières ont l'avantage d'accéder à ces financements et de bénéficier aussi de cet instrument de partage des risques parce qu'il y a un besoin d'accroître l'offre de crédit mais aussi d'améliorer l'appétence des institutions financières au niveau des MPME. Donc à chaque ligne de crédit tirée, l'institution financière peut bénéficier d'une subvention de 25% équivalente à cette ligne au profit des MPME et à taux zéro, bien entendu.
Cette ligne de financement serait la première, alors à quand la seconde, Monsieur le DG? Et nous allons terminer par là.
Je crois que on a encaissé la totalité à la date d'aujourd'hui. C'est un contrat qu'on avait signé en décembre 2021. La première tranche a été décaissée le 29 décembre 2023 et le 29 février 2024, on a encaissé la dernière tranche.
Merci beaucoup.